Radio Libertaire 89.4. Nous sommes au grand soir du mardi, l'émission du groupe Libertaire La Rue. Ce soir, nous allons parler de la numérisation de l'école. Depuis quelques années, État, régions et départements dépensent des milliards d'euros d'argent public pour numériser l'école à marche forcée, que ce soit au niveau des équipements ou des contenus pédagogiques. Cette course à la technologie s'est faite sans aucune concertation, ni des enseignants, ni des parents d'élèves. Alors que l'éducation nationale souffre d'une pénurie criante de profs, que de multiples recherches ont démontré que la surexposition aux écrans a des effets délétères sur le développement cognitif et affectif des enfants, les gouvernements successifs persistent à imposer le tout numérique d'une manière totalitaire. Indignés par cette situation, deux mères de famille, Julie et Audrey, viennent de créer le premier collectif de parents d'élèves contre l'école numérique. Ce sont elles que nous recevons aujourd'hui.
Bonsoir.
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 D'abord, je vais vous demander de vous présenter brièvement l'une et l'autre.
Je vais laisser la parole à Julie parce que c'est son coup de gueule qui a été déterminant.
Et oui, c'est parti d'un coup de gueule, effectivement. Je suis mère de trois enfants et aussi orthophoniste, donc j'avais un petit regard déjà sur l'exposition des enfants. Et puis, un énième soir où mon collégien a reçu des devoirs inappropriés sur l'espace numérique de travail, j'ai contacté tous les gens que je connais et qui sont sensibilisés à cette histoire-là, pour savoir si un collectif de parents existait, si c'était quelque chose de légitime à imaginer. J'ai eu beaucoup de réponses, et puis Audrey, notamment, qui a souhaité qu'on lance l'idée, le projet.
Voilà. Bah, on l'a souhaité ensemble.
Et Audrey ?
Alors, moi, je viens d'Alsace. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous, on est en Alsace, on est des pionniers, on est plongés dans le numérique jusqu'au cou, puisque mes enfants sont en lycée et ils ont donc testé le lycée 4.0. Juste le nom, ça fait rêver. Et voilà. Et quand j'ai lu le message de Julie, je me suis dit, mais voilà, j'ai tout de suite réagi. Et c'est vrai que, enfin, on s'est contacté et puis on s'est dit, bon, on n'est que deux peut-être, mais lançons quelque chose. On peut pas rester avec notre colère. Restons debout. Il faut faire quelque chose. Donc, voilà. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis parent d'élèves. Voilà. La question aussi m'a toujours touchée. Et effectivement, je pense qu'il faut essayer de faire quelque chose d'assez vaste, parce qu'il y a beaucoup de familles où ça pose problème. Il y a une vraie souffrance chez les parents aussi de voir cette déferlante numérique jusqu'à l'école. Voilà, tout le monde se dit, ouais, mais bon, c'est peut-être moi qui ai un problème, je suis peut-être pas adaptée. Non, voilà, donc on s'est dit, bon, allons chercher ces gens-là et essayons de faire quelque chose ensemble, voilà, pour être entendus.
Alors, ce collectif s'appelle Colline, c'est bien ça ?
Oui.
Voilà. D'accord. Ok.
On va peut-être juste dire le oui. Colline, voilà, c'est joli, c'est un petit peu naturel. On a bien aimé le ce que ça a évoqué. Ça peut être un prénom de fille, voilà. Mais c'est, voilà, le collectif pour la lutte ou la libération, c'est pas encore, contre l'invasion numérique de l'école. Voilà ce que ça veut dire.
D'accord. Est-ce qu'on peut faire l'historique de ce phénomène ? Quand est-ce que le gouvernement a commencé à pousser cette numérisation ?
Alors, il y a un plan numérique qu'on trouve d'ailleurs, hein, sur le site gouvernemental, hein, le plan numérique pour l'école. Donc ça, c'est 2015. Peut-être que vous avez en mémoire ce moment où la ministre de l'Éducation, alors, Najat Vallaud-Belkacem, avait signé ce contrat avec Microsoft.
Je me souviens très
voilà,
bien.
Voilà, on est dans cette période-là. Donc c'est en 2015. Donc là, en 2015, le projet, c'est de dire, voilà, on va équiper tous les collégiens de tablettes et on va mettre 1 milliard d'euros pour ça. Ça, c'était le projet initial, si vous voulez. Et alors, si juste pour avoir le jargon, en gros, l'idée, c'est de baigner les enfants dans un écosystème numérique jusqu'au cou. Voilà, ça, c'est 2015. Et après, à partir de là, et même déjà avant, je veux dire, il y a cette envie d'être moderne. Il faut bien comprendre que le plan numérique pour l'école, c'est une décision gouvernementale, c'est un projet de l'État, mais les écoles, l'équipement des écoles, c'est à charge des collectivités locales. Donc, les communes, les départements et les régions. Donc, après, tout le monde rivalise de modernité. Hein. Voilà, y a des communes qui se disent, ben voilà, on va acheter des tablettes aux enfants. Voilà, donc ça se développe, si vous voulez, pas du tout de manière uniforme sur tout le territoire français. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que c'est un projet gouvernemental, mais qui se décline par les collectivités locales. Ce qui fait que quand on se plaint de l'arrivée de tablettes dans une école, eh ben, l'éducation nationale nous dit, ah ben non, mais c'est le maire. Vous voyez, il y a ce truc-là. Et donc, alors, pour nous, on a, en 2017, nous, région pionnière, pour notre plus grand bonheur en Grand Est, notre président de région, Jean Rotner, a décidé de lancer le lycée 4.0. Il faut savoir que 4.0, si vous tapez sur... 4.0, c'est l'industrie 4.0. Hein, c'est les machines communiquent avec des machines. En gros, c'est le principe du 4.0. Et le lycée 4.0, donc, en 2017, il est testé sur 50 établissements. Lycée, ça ne prend pas, tout le monde est mécontent, les profs, les parents, les élèves, mais qu'à cela ne tienne, on généralise le dispositif en 2019. Ça, c'est un grand test. Mais il faut bien comprendre que ce projet-là, je veux dire, on teste, mais c'est appelé à se développer partout.
Et voilà, ça consiste le projet. En quoi exactement le lycée 4.0?
Oui, c'est vrai, je n'ai pas expliqué le livre.
Voilà, concrètement, ouais. C'est quoi?
Concrètement, c'est plus de livres. C'est plus de manuels scolaires. Concrètement, c'est un merveilleux cadeau de la région. Ça coûte un pognon de dingue. la région offre généreusement un ordinateur portable à chaque lycéen. Et donc, on supprime les livres. Ensuite, il n'y a plus de livres. Mais on télécharge les manuels scolaires. Mais ça veut dire que concrètement, en classe... Alors, il n'y a jamais eu autant de photocopies que depuis le 4.0 hein, chez nous. Donc, ça veut dire que, bon, on n'est pas forcément convaincu du côté des profs, mais il y a beaucoup de profs aussi que ça arrange. Donc, le gamin doit partir le matin avec son ordinateur chargé. Dans un certain nombre de cours, il doit ouvrir son ordinateur. Voilà, et travailler avec son ordinateur. Et voilà. Donc, et puis, c'est spécifique à la région Grand Est, mais partout en France, et là, je vais laisser la parole à Julie, partout en France, maintenant, on a ce qu'on appelle les ENT, notamment les espaces numériques de travail. Et ça impacte la vie de toutes les familles. C'est ce qui a mis très en colère Julie ce soir-là.
C'est quoi les espaces numériques de travail?
Les espaces numériques de travail, c'est donc une interface entre la famille et l'établissement de l'enfant. Donc, ça démarre, de plus en plus, ça démarre dès l'école élémentaire, en fait, pour communiquer entre la famille et l'école. Donc, dans le public, c'est Pronote. Dans le privé, c'est...
Alors, ça dépend.
Je ne sais plus.
Ça dépend des marchés qui sont passés entre collectivités locales. Et voilà. Pronote, apparemment, est un peu mieux que les autres, semblerait-il.
Oui. Et donc, c'est censé faciliter la communication entre les familles et l'école. Et c'est censé aussi, donc il y a par exemple les devoirs des élèves sont indiqués sur cette interface, les notes et les éventuelles informations de l'établissement. Voilà. Et c'est un bazar sans nom parce qu'il n'y a pas de règles, on nous impose, il n'y a pas de règles d'utilisation, il n'y a pas de droit à la déconnexion, c'est pas fermé le vendredi soir jusqu'au lundi matin, pourquoi on pourrait imaginer ça, pourquoi pas. Les devoirs arrivent à n'importe quelle heure, au milieu des vacances. Devoirs qui ne sont plus notés dans un agenda.
Bah non.
De toute façon, en général, les élèves n'ont plus d'agenda. Et aussi, du travail à rendre à n'importe quelle heure. L'exemple que j'ai, c'est un devoir à rendre avant 16h un dimanche. Voilà.
Mais comment c'est possible? Ça paraît absolument hallucinant. C'est des erreurs ou c'est...
Non, c'est des libertés prises par les enseignants. Alors, depuis le Covid, hein, ça s'est vraiment aggravé. Parce que pendant le Covid, les devoirs, c'était le moyen de communiquer, le seul donc, qui nous restait, enfin, qui a été jugé bon de conserver. Donc, les devoirs arrivaient n'importe quand. Pendant la période du Covid, les devoirs, c'était l'anarchie. L'anarchie totale.
L'anarchie
au mauvais sens du terme,
au bazar. Voilà,
voilà, tout à fait. Et donc pour l'organisation de l'élève, il y a plus, ils peuvent pas prévoir. Et quand on note ses devoirs sur son agenda, on sait d'après la densité d'écriture si on va en avoir beaucoup, pas beaucoup. Bah tiens, j'ai ça à faire.
Et on s'en souvient.
On s'en souvient. On se met en projet dans son cerveau. Tiens, ce soir, je vais y passer du temps ou pas beaucoup. Ou bah je peux m'avancer. Et là, en fait, il y a plus cette possibilité de planifier, de s'organiser. Donc les élèves sont perdus. Et moi, mon collégien, il a frôlé le burn-out à un moment, quoi. Il était jamais tranquille. Il nous demandait des fois d'allumer l'ordi à 20h30, 21h, pour voir s'il n'y avait pas des devoirs à faire qui s'étaient ajoutés aux devoirs à faire. Donc, nous, on a dit stop, quoi.
En fait, il y a une intrusion de l'école dans l'espace privé, en fait. C'est ça que vous nous expliquez.
C'est ça, c'est ça. Et les profs nous répondent qu'on est obligé d'utiliser ce truc-là. Moi, j'ai rien signé pour utiliser ça.
Mais tes profs poussent à ça.
Alors, certains.
Je crois que ça serait injuste de dire ça, oui. Parce que faut savoir que les ENT, dans leur joli petit nom, les ENT, on aime bien les acronymes hein, dans ce monde-là, c'est depuis 2011. Donc, si vous voulez, ça préexiste déjà. Après, les profs, ils sont tout aussi contraints d'utiliser l'espace numérique de travail, de rentrer les notes, puisque par exemple, ça va faire la moyenne tout seul, ou ça peut faire des choses comme ça. Et c'est aussi une interface Pronote et d'autres. Les absences, le contrôle des absences, par exemple, le répertoire des absences, le motif des absences. Et ça, c'est quelque chose. Nous, on a une interface parent. Les profs ont une interface prof. Les élèves ont une interface élève. Et le chef d'établissement, par exemple, peut avoir l'œil sur les devoirs donnés par tel ou tel prof, les absences. Nous, on peut voir en temps réel, formidable, en temps réel, les absences de nos enfants. C'est aussi un système de surveillance des choses, à la fois de dépossession. Comme le dit Julie, on ne note plus, on ne sait plus ce qu'on a à faire et on a un stress, il faut toujours être connecté. Mais ça veut dire aussi que du coup, les parents ont l'œil, même parfois avant que la copie soit rendue, on peut savoir la note. Donc, on est, vous voyez, ça crée un truc où on dépossède aussi l'enfant de sa scolarité, de sa responsabilité dans la scolarité.
En fait, on plonge les enfants, les profs, les parents dans une forme d'immédiateté. Oui. Il n'y a plus de recul, il n'y a plus de distance, il n'y a plus le temps de penser, en fait.
Tout à fait.
Tout le monde est immergé dans une réalité virtuelle immédiate.
C'est ça. Le dernier exemple, là, lancé par le collège de mon fils, je trouve qu'il est il me révolte aussi. Quand les enfants ont des observations en classe, donc un mot, maintenant on le sait via l'espace numérique de travail. Donc c'est même plus l'enfant qui rentre à la maison avec son carnet en disant j'ai eu un souci avec tel prof. Je sais pas, ça, il portait quand même quelque part sa responsabilité à ce moment-là. C'est nous, parents, qui recevons le alors, il faut qu'on se soit connecté. Hein, on peut aussi choisir de ne jamais y aller.
Les mauvais parents ne se connectent pas. Voilà. On sait d'ailleurs
donc,
comme ça.
Et c'est comme ça qu'arrive l'information que notre enfant a eu une observation en classe. Et ça nous dépossède aussi. Enfin, moi, l'autre jour, j'ai vu une observation. J'étais pas avec mon fils. Et le temps qu'il rentre le soir... j'aurais préféré qu'il me l'annonce, quoi, et qu'on en parle ensemble, et voilà. Donc, et on coche une petite croix pour dire qu'on a pris connaissance de l'information.
Donc ça contrôle aussi les parents,
bien sûr, oui, ça contrôle, et les établissements savent qui s'est connecté combien de fois, à quelle heure, et voilà. Nous, on n'est pas d'accord avec ça.
On est vraiment dans la société de contrôle, en fait.
Oui,
c'est un élément de contrôle, clairement.
Et ça ressemble à un environnement professionnel. Parce que c'est ce qui se passe, ce contrôle permanent de ce que font les uns et les autres, ce qui se passe dans le monde professionnel.
Bah, on prépare nos enfants à vivre ça dans leur carrière professionnelle, moi, je pense. On les modélise, quoi. Enfin, ils vont rentrer dans
donc
ce
c'est déjà un formatage.
Je trouve. Hein.
Oui, c'est un outil, entre autres, de formatage. Ouais.
Je voudrais revenir sur la question de l'industrie 4.0, pardon. Parce que, évidemment, ça concerne l'école, comme vous nous l'expliquez. Mais en fait, c'est un projet qui est mondial et qui est extrêmement complexe. Et en fait, l'industrie 4.0, elle a été affichée, mise en avant en 2011 à la foire de Hanovre comme la quatrième révolution industrielle. Autrement dit, en fait, cette industrie 4.0, elle arrive après la première révolution industrielle, qui était celle de la machine à vapeur, la deuxième révolution industrielle avec l'apparition de la machine-outil, la troisième révolution industrielle dans les années 50 avec l'électronique, l'automatisation et la programmation. Voilà, donc à ce moment-là, c'est la naissance de la machine à commande numérique et des robots. Cette quatrième révolution industrielle, en fait, donc, qui essaime sur toute la planète, a pour objectif de faire converger le monde virtuel, c'est-à-dire le monde créé artificiellement par les logiciels informatiques, avec la gestion, c'est-à-dire la finance et le marketing, et les objets produits et services du monde réel, dont l'objectif, c'est une connexion de tout ce qui nous entoure.
C'est ça, c'est l'interconnexion de tout, humain compris.
C'est ça. Donc, c'est un projet qui est extrêmement vaste et qui implique un changement total de civilisation, en fait.
C'est ça. C'est ce que disent les chercheurs les plus éclairés sur ce sujet, et dont beaucoup ont signé notre tribune, d'ailleurs. Que c'est une révolution civilisationnelle.
Oui, et c'est derrière, c'est on est dans cette logique où maintenant on parle d'intelligence artificielle. D'ailleurs, l'intelligence artificielle, elle a aussi des projets pour l'école. Enfin, ça faut le savoir. On teste déjà tout un tas de trucs d'intelligence artificielle à l'école. J'ai lu l'autre jour un truc pour l'éducation augmentée. via le...
C'est comme l'homme augmenté, en fait.
Oui, c'est ça, c'est ça. Alors bon, c'est pas pour ça que...
C'est quoi l'éducation augmentée ? Eh
ben, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas le niveau en français qui sera augmenté. Ça, par contre, ça, je peux vous le garantir. Ni la capacité à réfléchir qui sera augmentée. Je sais pas bien, mais juste la formule m'a interpellée. Si vous voulez, vous parlez d'un projet, effectivement, qui est global. C'est un projet global de numérisation de nos vies. On le voit tous, on le vit tous. Et effectivement, le Covid a été un accélérateur de ça. La structure était déjà prête, mais ça a été la bonne raison pour ne plus y échapper et pour être concernant l'école. Faut savoir que c'est pas du tout un projet qui est nouveau. C'est un projet qui date à peu près des années 95 2000, où finalement c'est le moment où l'industrie numérique qui commence à prendre un essor se dit, mais il y a un super grand marché à ouvrir, c'est celui de l'école et de la formation. Et on est donc dans cette logique-là depuis un certain temps. Donc ça a été les ENT, espaces numériques de travail, donc pour les devoirs, les machins. Et puis la phase suivante, c'est effectivement de connecter en 4.0 tout, mais non seulement connecter les machines, mais on fait plonger, si vous voulez. Quand vous voyez, j'ai vu il n'y a pas longtemps un peu l'organigramme de ce projet numérisation de l'école. Ça s'appelle numérique éducatif, encore un bel oxymore. Voilà, ce projet de développement du numérique éducatif français, qui doit ressembler à bien d'autres. Mais ce que vous voyez, c'est que le projet, ce n'est pas de faire entrer le numérique dans l'école, parce qu'on pourrait effectivement se dire, oui, éduquons les enfants au numérique, puisqu'il y a du numérique partout. Non, c'est d'éduquer par le numérique et c'est de plonger l'école dans le monde numérique. Pas l'inverse. Voilà, donc... Il s'agit bien effectivement d'aller plus loin vers du formatage, et nous, ce qu'on vit effectivement en région Grand Est, c'est généralisé, mais il faut bien savoir que il y a plein déjà d'écoles, de collèges, de lycées où on a déjà testé ça et où les gamins sont connectés en permanence.
Ben, effectivement, via j'ai l'école. Quelques chiffres là qui sont tout à fait éloquents. l'espace numérique de travail, donc le déploiement est effectivement généralisé. Pardon. Le dernier état des lieux du projet, qui date de novembre 2018, fait apparaître 29 académies concernées, 100% des lycées, 90% des collèges prévus donc pour ce programme espace numérique de travail, 100% des collèges prévus donc dans 84 départements français, 94% des départements ayant lancé le projet dans le premier degré à une échelle très variable, puisqu'il y a des établissements qui sont en phase expérimentale, en fait.
Oui, enfin, ces expérimentations, comme tout, hein, je veux dire, on expérimente, mais après, encore une fois, je prends cet exemple du lycée 4.0 parce qu'il est, il est large, mais dans plein d'écoles et dans plein de choses, on expérimente. Mais on n'évalue pas à l'issue de l'expérimentation.
Il n'y a pas d'évaluation.
Non, il n'y a pas d'évaluation.
Y a pas d'évaluation.
Ou en tout cas, pas avec les parents, ni les enseignants, ni les élèves. C'est jamais, voilà, c'est forcément bien et on continue. Voilà.
Donc c'est, c'est ahurissant, quoi. Il y a encore une fois, contrairement, enfin, on va y revenir dans la deuxième partie, en plus aux avis éclairé de plus en plus de scientifiques disant que c'est absolument épouvantable pour le développement des enfants, etc. Il n'y a pas d'évaluation et pas de concertation et pas beaucoup de résistance non plus.
Non.
En tout cas, de la part des dirigeants d'établissements scolaires.
Non. Non, je crois que. Enfin, je sais pas. Si tu...
Moi, je parle de ce que je connais. Hein, les dirigeants d'établissements scolaires à qui j'ai pu en parler me disent que c'est impossible de revenir en arrière parce que c'est très pratique.
Ah voilà,
c'est comme
et
ça.
Et que c'est comme ça. Et que pour eux, c'est un très bon outil. Et que si je ne suis pas satisfaite, c'est que je ne suis pas adaptée à ce monde-là, probablement.
Non, il y a peu de résistance. Enfin, chez les profs aussi, il faut... Enfin... Il y a une espèce de soumission du fonctionnaire qui croit qu'il doit fonctionner. Donc il y a peu de... Enfin, il y a beaucoup de mécontentement. Les gens sont mal avec ça. Les profs sont mal avec ça. Les parents sont mal avec ça. Les élèves, bah, c'est des enfants, donc ils s'adaptent aussi au monde qu'on leur a. Enfin, ils s'adaptent. Après, c'est pas forcément que c'est bien pour eux. Mais dans le fait de résister, de dire non... On est piégé comme quand vous prenez votre billet de train puis vous voulez pas donner votre numéro de téléphone, bah oui, ben on vous donne pas le billet de train. Voilà. Donc c'est ce même principe, c'est que comment on résiste là-dedans à part être nombreux. c'est ça l'idée que nous on a. C'est faisons groupe, parce que quand on est tout seul à dire non, je veux dire, on se fait taper dessus. Basta, on est l'emmerdeur de service, la miche de service, machin, voilà. Donc voilà, mais il faut faire du nombre. Il y a beaucoup de mécontentement. Il y a très peu de convaincus, en réalité. Il y a beaucoup de gens qui disent, bah oui, mais maintenant, c'est comme ça, on doit faire avec.
Il n'y a pas le choix, voilà, toujours.
Voilà.
Est-ce qu'on peut dire, en fait, que la mise en place de ces projets, est-ce que ça va donner lieu à des sélections, par exemple ? Pour des sélections par rapport vis-à-vis des enfants, ceux qui vont intégrer le dispositif de façon fluide, de façon ceux qui ne forment de sélection des enfants, ceux qui ne peut-être aussi en lien avec l'appartenance sociale aussi dans certains milieux, il y a moins de voilà.
Ah, ce qui est sûr, c'est que c'est pas du tout en faveur de l'égalité des chances.
Non,
pas du tout. Ouais. Non. Déjà au niveau équipement, alors on nous bassine avec la fracture numérique. Hein. C'est pas du tout ça mon.
Non, mais c'est l'argument qui prévaut.
Voilà. Voilà, c'est l'argument. C'est pas. Non, dans les milieux sociaux fragiles, les enfants en général sont équipés d'un téléphone. Ils sont équipés, c'est un signe. C'est un marqueur social d'avoir un téléphone moderne. Hein. Donc, ils sont équipés. Par contre, on ne fait pas ses devoirs sur un téléphone. Concrètement, ce n'est pas possible. Et puis, je prends ma casquette d'orthophoniste, mais plus on est exposé, moins on réfléchit longtemps, moins on est persévérant, plus on se déconcentre vite. Plus on a un rapport à l'échec qui est quand même complexe. Donc, il y a une inégalité parce que il y a des gens qui savent que c'est mauvais pour les enfants. Et ceux-là, les enfants vont s'en sortir, même si l'école les expose beaucoup. Moi, ça me fend le cœur, mais bon. Mais les enfants qui sont surexposés dans leur foyer, parce que les parents sont soit débordés, soit dans des petits espaces, avec des boulots prenants, avec des horaires pas possibles, où on ne peut pas les emmener au square, où ils se gèrent entre eux, bref. Ces enfants-là, on leur donne encore moins de chances de s'en sortir, finalement. Donc, je ne sais pas si on peut parler de sélection, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment pas du tout en faveur de...
En tout cas, c'est un approfondissement
des fragilités,
des inégalités sociales.
Oui, et des déterminismes familiaux.
Mais
oui, c'est clairement. Oui. Mais ça, c'est... Oui, enfin, je l'expose bien, effectivement, mais c'est effectivement, les parents doivent se connecter, les parents doivent lire les trucs, les parents doivent savoir faire... Mais déjà, comment on fait, quoi? Comment on fait? Et alors, juste pour vous donner quelques éléments de comment c'est pensé aussi, dans la manière dont c'est pensé, le numérique éducatif, plan gouvernemental, etc., eh bien, on dit qu'il faut former les parents. Parce que maintenant, il faut former les parents pour qu'ils soient capables de comprendre quelque chose à l'école. Je veux dire, donc là, on comprend bien. Je veux dire, quand on est femme, mère célibataire, qu'on doit bosser au supermarché, qu'on n'a déjà pas... C'est déjà compliqué, quoi. Mais comment on va se former, quoi? Je veux dire, il faut être formé pour avoir des enfants. C'est honteux. Donc ça fait effectivement reposer encore plus sur la compétence des parents à comprendre cette espèce de truc invraisemblable, numérique, machin. Enfin, vous voyez, quand est-ce qu'on clique? Par exemple, un exemple très concret qui concerne là absolument tout le monde, les procédures d'orientation. À l'issue de la troisième, un élève doit s'orienter. Est-ce qu'il va en lycée général, en lycée professionnel, en apprentissage? Ça, ce sont des choses qu'avant, on faisait. Il y avait ce qu'on appelait une fiche de liaison. C'est-à-dire que, voilà, on disait, tiens, bah, moi, voilà, on voulait que l'enfant en fasse ça. Et à chaque conseil de classe, il y avait, si vous voulez, un aller-retour avec la famille, l'avis du conseil de classe, etc. Souvent, ce document, dans un certain nombre de familles, était le seul support à avoir une discussion sur l'orientation de l'enfant. Parce qu'il fallait remplir le document. Maintenant, et aussi, ça passait, après, ces documents étaient traités par la direction du collège qui rentrait les choix. Quand c'était pas cohérent, quand il n'y avait pas... Voilà, il faisait des corrections, il voyait la famille. Tout ça. Maintenant, les procédures d'orientation, vous allez sur EduConnect avec votre code et vous rentrez vous-même les procédures d'orientation. Bonne chance et démerdez-vous. La famille se plante, tant pis pour elle. Voilà. Donc là, voilà, ça c'est très concret. Et ça touche absolument toutes les familles qui ont un enfant qui arrive en troisième.
On va faire notre pause musicale traditionnelle. On va écouter Jacques Brel.
C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveille l'œil sévère, les Jules et les Prospères qui seront la France de demain. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des forts en thème, buitonneux jusqu'à l'extrême, et qui recouvre de laine leur cœur qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien, qui décline de chagrin, et qui seront pharmaciens parce que papa ne l'était pas. C'est le temps où j'étais dernier, car ce tango rosa rosé, j'inclinais à lui préférer déjà ma cousine Rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des promenades, de parcelles sous les arcades, cerclées de corbeaux et d'alcades qui nous protégeaient des pourquoi. C'est le tango de la pluie sur la cour, le miroir d'une flaque sans amour qui m'a fait comprendre un beau jour que je ne serais pas Vasco de Gama. Mais c'est le tango du temps béni, ou pour un baiser trop petit, dans la clairière d'un jeudi, à Rosie, cousine Rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango du temps des héros, j'en avais tant des minces, des gros, j'en faisais des tunnels pour Charlot, des auréoles pour Saint-François.
soi, c'est le tango des récompenses. Quel est à ceux qui ont la chance d'apprendre dès leur enfance tout ce qui ne leur servira pas. Mais c'est le tango que l'on regrette une fois que le temps s'achète et que l'on s'aperçoit tout bête qu'il y a des épines au rosa.
Rosa, 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 rosa.
89.4 Radio Libertaire, et on vient d'entendre Jacques Brel, Rosa, Rosa, qui évoque une période de l'école qui n'existe plus. Voilà.
Juste, si je peux, j'en profite parce que c'est une bonne oui. transition. Il y a eu là dernièrement un rapport du Conseil supérieur des programmes qui fait en gros un bilan des études qui ont pu être faites par l'OCDE, un truc très très officiel. Hein, c'est pas un truc d'illuminé à miche, adepte de la lampe à huile. Hein, c'est un truc de gens officiellement reconnus et qui dit quelque part. Vraiment, il écrit ça en toutes lettres. Tous les génies du numérique ont appris le latin, pour ça que ça me fait penser, le grec et les mathématiques, avec des professeurs bien réels et dans une relation vivante. Et ils ont appris le numérique après. Et ils ont très bien réussi à s'en sortir dans le numérique.
Voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une évolution globale de la société, que ce soit sur le plan de l'école, de la médecine, de l'université? C'est que le numérique va être réservé à la plèbe, à la multitude, et que le fait d'avoir affaire à des êtres humains sera un truc de luxe, qui sera payant. On sait aussi, là on parlait des génies, des GAFA. On sait que ces gens-là mettent leurs enfants dans des écoles Montessori, que les enfants n'ont pas le droit de regarder les écrans. Et il y a tout simplement, je pense, il va y avoir un système économique où les pauvres ont droit à une éducation de merde numérique, à une médecine de merde qui passera par des cabines digitales ou je ne sais pas quoi. Et puis où les gens riches auront accès à des êtres humains. D'ailleurs, pendant la pandémie, où tout se faisait en distanciel, comme on dit, sauf les préparations aux grandes écoles, qui ont été maintenues.
Oui, exactement.
En présentiel. Voilà. Mmh. Voilà. Donc, on va peut-être... On parlait du rapport du Conseil supérieur des programmes... Donc, qui a conclu
Alors, c'est pas qui conclut, parce que si vous voulez, il peut pas complètement dire que tout ça, c'est de la merde. Voilà. Mais, quand même, il mentionne très clairement qu'on ne doit surtout pas supprimer les livres, qu'on doit maintenir un lien humain. Et il mentionne, par exemple, quelque part, et en toutes lettres, que l'école ne doit pas devenir un marché. Voilà. Il mentionne tout ça, c'est bien qu'il le fasse, mais ça veut dire qu'officiellement, et il pointe hein, certains moments où on sait que voilà, ça réduit la concentration, que ça a un impact quand même sur les capacités normalement cognitives, et puis normalement que l'école doit développer. Donc il pointe quand même que non, c'est le numérique là-dessus, il y a un problème. Après, ils disent plein d'autres choses, mais ils le disent quand même. Mais même face à ces recommandations officielles. Pas grave, on va quand même pas changer le braquet, quoi.
Donc, vous allez dans le sens de ce que dit Elisabeth, en fait. C'est-à-dire que, vraiment, généralisation du numérique, en fait, c'est un outil de contrôle pour les masses populaires, etc. Qui est en train de se mettre à l'œuvre, semble-t-il.
Ça y ressemble.
Ça y ressemble fortement, en fait.
Michel Desmurger, qui a compilé à peu près 1500 études scientifiques indépendantes sur les impacts du numérique.
Qui a écrit ce livre,
voilà.
La fabrique du crétin digital.
Voilà ce qui se passe, c'est tout. Je crois que, qu'est-ce qu'on... Voilà. Mais quelle est la vocation de l'école? C'est d'adapter d'une certaine manière les enfants à la société dans laquelle ils seront amenés à vivre. On ne veut pas des gens qui pensent, hein. On préfère des gens qui consomment.
Hein. Il est bien là le problème, en fait. On ne veut pas des gens libres, on ne veut pas des gens indépendants, on ne veut pas des gens autonomes, on ne veut pas des gens qui pensent. C'est quand même extrêmement grave ce qui est en train de se mettre en œuvre.
C'est un projet de société, je crois qu'on le voit se décliner par ailleurs.
Il décline partout.
L'école fait sa part pour la croissance, bon sang, enfin je veux dire...
C'est ça.
Voilà.
Et c'est vrai que bon, on entend souvent traiter de complotistes, quiconque peut imaginer qu'il y a un dessein obscur derrière les politiques gouvernementales. Mais on peut quand même penser légitimement que les États ont intérêt à avoir des populations de gens qui ne pensent pas, de crétins digitaux, pour reprendre l'expression
du système néolibéral
de Michel Demurger.
Oui.
Moi, j'observe mes enfants. J'ai j'ai trois enfants, mais j'en ai deux là qui ont 15 et 16 ans, donc ils sont dans le lycée 4.0. Leur papa, on est divorcé, donc je peux le dire, leur a offert un smartphone un peu trop tôt. Et donc ils sont, si vous voulez, maintenant avec, on leur a en plus donné cet ordinateur, donc là c'est open bar, on est à fond là-dedans. C'est extrêmement compliqué pour les familles, notamment quand vous êtes tout seul en face. Je veux dire, soit on est en conflit tout le temps, soit au bout d'un moment on laisse aller, puis c'est des heures. Moi j'observe que, mais ça me fait mal, hein. Il y a une la part d'éducation de ce que vous avez donné aux enfants, elle se restreint par rapport à quelque chose qui est vraiment de l'ordre du formatage, des choses toutes faites avec des voyez, puis on a vu une vidéo qui dit que, puis un machin, puis ouais, on fabrique une pensée sans questionnement, mais vraiment, enfin moi je le vois au quotidien. Ça fait...
Julie, vous avez le même sentiment ?
J'ai le même sentiment et je le vis au travail aussi, hein, puisque comme je suis orthophoniste, j'ai affaire à de plus en plus d'enfants en difficulté, et des difficultés beaucoup plus profondes qu'il y a 10 ou 20 ans, profondes, globales, qui touchent le cognitif mais aussi le social, l'humain. Alors pareil, hein, dans ma profession, on aime bien ranger les enfants dans des cases. Donc il y a maintenant beaucoup d'enfants avec troubles du spectre autistique, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, vous voyez, tous ces acronymes encore, hein, on les a dans notre métier. Et un enfant, c'est presque plus vu comme un sujet dans sa globalité, dans sa complexité, au sein d'une famille, ce qui fonctionne dans un système, hein, dans un environnement. Et moi, je pose la question des écrans maintenant aux familles, alors pas du tout pour les culpabiliser, mais pour connaître les habitudes et le bain d'écran, et au besoin, proposer plutôt un accompagnement et des conseils que pointer du doigt que les parents font mal, parce qu'ils ne sont pas assez informés. Donc j'estime que c'est mon boulot maintenant. On se retrouve avec des petits gamins qui ont 5-6 ans, mais qui ont un niveau d'un enfant de 2 ans, intellectuel et social, des enfants qui répètent mes phrases parce que c'est comme si c'était la télé qui parlait en arrière-plan alors que c'est moi qui m'adresse à eux, qui les regarde, qui échange, qui suis en interaction, en tout cas je m'y efforce. Et l'enfant, il me regarde pas et il répète, je lui dis tu peux enlever ton manteau, alors il répète très bien. On a des enfants qui répètent très bien parce que les jeux interactifs, on peut aussi en parler, c'est pas des tablettes, hein, mais ça peut être des petits robots à piles et des machins, ça incite l'enfant à répéter pour connaître les couleurs, si possible en anglais aussi, ça peut être pas mal, pour savoir compter jusqu'à 20 dans toutes les langues. Et donc on a dès le berceau des enfants qui répètent parfaitement, qui connaissent toutes les lettres de l'alphabet et qui vont jamais pouvoir se servir de ça parce qu'ils sont pas c'est pas des outils pour eux. C'est juste des choses à répéter, comme des petites comptines, à la limite. Voilà. Et il n'y a pas de sens mis derrière. Donc, ils arrivent à la maternelle et ils sont déjà en panne pour penser par eux-mêmes. Alors là, je parle de cas, peut-être que vous jugerez grave, mais en réalité, j'en rencontre tous les jours des enfants comme ça. Tous les jours. Et il y a du boulot pour les ramener à la vie derrière. Parce que c'est presque ça, quoi. Avoir un regard, un fou rire, pourquoi pas, un câlin... voilà, donc moi, mon métier maintenant, c'est de jouer aux petites voitures par terre, quoi. C'est presque plus derrière un bureau, ça n'a pas de sens pour plein d'enfants. Voilà, donc Là, je parle de tout petit. Mais après, en grandissant, ça génère quoi? Parce que ça génère de l'échec scolaire. Et encore, l'école s'adapte. L'école s'adapte.
Elle est bienveillante.
Ils sont, voilà, donc ils ne sont pas tant que ça en échec scolaire. Sauf que quand arrive l'adolescence, c'est des enfants qui, font pas, qui n'ont pas de second degré. Ils ne comprennent pas l'humour. Ils ne comprennent pas l'implicite. Donc, on a des gamins qui piquent des crises ou qui s'énervent face à l'adulte, qui croient que l'adulte l'a provoqué. Je pense qu'il y a des profs qui vivent ça quotidiennement et qui ne comprennent pas forcément d'où ça vient, cette attitude chez l'enfant. Mais ça vient d'un problème de panne pour penser chez l'enfant. Donc, des quiproquos, des conflits, il m'a insulté. Et quand on prend la peine de se mettre à la place de l'enfant, ce qui est très compliqué, parce que nous, on est des adultes construits, on fait des liens, mais quand on essaye d'imaginer ce que vivent ces enfants-là, mais ils sont en détresse, en fait. Ils ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent. Et ça donne peut-être des attitudes de délinquants, entre guillemets, mais ce n'est pas forcément des délinquants, c'est des gamins qui ne comprennent pas, quoi. Qui ne comprennent pas. Alors, voilà, c'est un tableau qui est terrible. Et entre orthophonistes, on s'en parle régulièrement. Alors, on a changé notre façon de travailler, nous, pour nous adapter à ces enfants-là et proposer ce qui est à leur portée, pour qu'ils puissent avancer avec ce qui fait sens pour eux. Le mot-clé, c'est vraiment faire du sens, quoi, dans la vie. Faire du sens avec les choses, avec les objets, pour pouvoir aussi faire du sens avec l'humain. Enfin, y a du sens partout, tout le temps, autour de nous.
Ce que vous nous expliquez, en fait, c'est qu'il n'y a plus d'interaction sociale, en fait.
Pour ces enfants-là, il n'y en a plus. Et c'est des enfants aussi qui ont... Alors, les parents, parfois, ont compris qu'il ne faut pas les surexposer aux écrans. J'ai pas mal de parents, maintenant, qui arrivent en disant « On a arrêté les écrans, hein, on a vu, et puis on a vu une émission, etc. » Donc, ça, le message est passé. Ce qui ne passe pas encore, c'est le parent qui, lui, est sur son écran. Quand l'enfant est dans la poussette, ou quand l'enfant est par terre sur son tapis, le parent, il est sur son écran ou avec son oreillette, et il discute avec quelqu'un. Alors, l'enfant, il voit le parent parler, mais pas à lui. Là, au niveau interaction, ça ne fonctionne pas. Le bébé, quand il vient au monde, son cerveau n'est pas du tout terminé. Et il va pouvoir se terminer par le regard que son parent lui porte. C'est les interactions qui vont permettre aux réseaux neuronaux de finir de se mettre en place. Ces premiers temps de vie sont capitales. Et alors, les parents sont parfois happés par leur écran au moment du biberon, au moment du change. Tous ces moments qui sont précieux, quoi, dans la vie des enfants. Et c'est pas des parents mal intentionnés, hein, j'insiste bien là-dessus, hein, c'est des parents pas informés. Et aussi dépendants de ce truc-là qui est fait pour nous rendre dépendants. Tout est dans l'objet pour qu'on soit dépendant.
Et le cerveau se développe jusqu'à 25 ans, donc ça marche longtemps.
Donc il y a du boulot.
Ah oui, c'est absolument terrifiant. Ouais.
Ouais. Oui, c'est vraiment tragique. Mmh. Ouais. En fait, il y a un abêtissement.
Oui.
Oui, et puis une stérilisation, enfin une déshumanisation. Et, enfin, c'est vrai, il suffit de se balader. J'imagine que c'est pareil à Strasbourg ou en Bretagne. Mais à Paris, quand on est dans les rues ou dans le métro, de voir que 90% des adultes et des adolescents sont happés, sont captés par leur smartphone, ne voient rien autour, ne voient rien ni personne. On voit des gens qui lisent leur truc, leur smartphone, par exemple, en montant des escaliers, sans se rendre compte qu'il y a quelqu'un derrière ou à côté, qui n'ont plus aucun contact avec eux. Mais comment ça a été possible, ça, Bon. Et donc, d'où la création du collectif, Julie. Et donc, parlons un peu de l'historique de ce collectif, Essayons de donner des ressources.
Moi, ce que j'ai juste envie d'ajouter à ce que dit Julie, moi, je sens ça. Je veux dire, c'est glaçant ce que tu racontes.
Oui.
C'est glaçant. Oui. Et c'est quelque chose qui se passe largement. T'insistes bien là-dessus. C'est pas juste certaines familles. Non, c'est quelque chose qui se passe largement. Et voilà. Et ce que je voulais juste dire, c'est que. Donc, ça, c'est. Parce que nous, parents, on nous renvoie toujours ça. Si vos enfants sont comme ça, c'est parce qu'on ne gère pas à la maison.
Oui, c'est votre faute.
Ok. Oui. Mais alors, une fois que l'école, on aurait pu espérer que ce soit un sanctuaire, Vous voyez, où on est encore quelque chose où, eh ben justement, on a ces interactions. Justement, on apprend à penser, à développer quelque chose, à être en interaction. Donc, quand l'école se numérise, où il est cet espace?
Donc, il n'y en a plus.
En fait, vous êtes dépossédé de votre rôle éducatif en tant que parent. L'école capte, en fait, via des procédés technologiques, etc. En fait, elle capte, elle emprisonne.
C'est pas que, la captation, Julie l'explique bien, c'est quelque chose qu'on a tous, vous le dites, on l'a tous. Elle apporte la clé de voûte. C'est-à-dire que elle légitime, elle crée, elle autorise ça, puisque c'est l'école. Et dans les familles aussi, justement, les parents sont plus démunis peut-être, c'est aussi souvent quand l'école dit quelque chose, c'est quelque chose d'important. Voyez ? Et donc, quand l'école leur dit, mais il faut connecter vos enfants, comment on lutte là contre ce que décrit Julie ?
Mais justement, c'est un truc d'une perversité extraordinaire. L'école dit, il faut connecter, et les spécialistes, on va dire, de l'éducation disent, oh, il faut contrôler les écrans, il faut contrôler la connexion.
Et ça, c'est le rôle des parents.
Et c'est le rôle des parents, et puis si les parents ne sont pas capables de le faire, c'est que vraiment, ils sont très mauvais. Donc, on est dans un système d'une perversité, mais absolue.
Oui, on est tout le temps en dissociation cognitive, enfin coupé en deux entre nos principes, nos idées, ce que nous demande l'école, qui est quand même une institution en laquelle moi j'ai cru longtemps et j'ai envie d'y croire encore. On est pris là-dedans, quoi. Et mon fils qui est en troisième, je ne peux pas le rendre autonome face à ses devoirs. Il est capable de faire ses devoirs tout seul, mais si je le laisse faire tout seul, il va faire 2 heures de YouTube avant ou après. Donc je suis obligée de surveiller mon fils pendant qu'il fait ses devoirs. J'ai jamais fait ça avec sa grande sœur qui a 18 ans aujourd'hui. Elle gérait parce que c'était, j'ouvre mon agenda, je fais mes devoirs. J'avais pas besoin de voir ce qu'elle était en train de faire sur un écran. Elle n'avait pas d'écran et elle faisait très bien ses devoirs. En un quart d'heure, c'était terminé. Donc là, on nous dit que ça les rend autonomes. J'y crois pas du tout.
C'est un mensonge absolu.
C'est un mensonge. Et au niveau de la charge mentale parentale, c'est infernal. C'est infernal. Et encore, j'essaye d'être dispo ou le papa. Enfin voilà, on peut s'organiser. Mais dans les familles où c'est plus compliqué, je sais pas comment font les gens. C'est épuisant.
Et j'ai envie de rajouter à ça, petit exemple très concret. Un lycéen a un commentaire de texte à faire. En général, on a le texte, on y réfléchit, vous voyez. Mais là, non. Le réflexe est devenu, oh, j'allume l'ordi. Mais j'allume l'ordi pourquoi? J'allume l'ordi parce que je n'ai plus confiance dans ma capacité à penser.
C'est terrifiant.
Voilà. Et donc, on dépossède effectivement de... On se dit, mon cerveau... C'est ce qui se passe aussi là tout le temps avec l'intelligence artificielle. Je veux dire, voilà, s'orienter. On vit ça tout le temps. Mais là, c'est... Voilà. C'est-à-dire que là, encore une fois, on pose une couche en plus. C'est qu'on n'a plus confiance dans sa capacité à penser. Nous, on est des adultes, on a encore connu autre chose. Et déjà, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Mais là, ce sont des enfants en construction auxquels on impose ce fonctionnement-là. Et il va s'inscrire dans leur cerveau, parce qu'il y a des circuits qui ne vont pas se faire dans le cerveau, vous voyez. Enfin,
En fait, vous posez une question... qui nous paraît ici extrêmement importante quand même, c'est la question de l'autorité, de la capacité de l'État, par exemple, à imposer une logique comme celle-ci, sans consulter, sans... etc.
Mais s'il consultait, on dirait pas oui.
Oui, évidemment. Et du coup, se pose la question quand même de l'obéissance. C'est-à-dire, en fait, cette... parce qu'on croit dans les institutions, parce qu'on a été nous-mêmes élèves, etc. Et l'école représentait quelque chose d'important pour nous. Du coup, comment faire face à ça?
On crée un collectif.
Oui, voilà. Mais c'est ça, l'idée, c'est de faire collectif.
Alors, le collectif, c'est très important de rappeler quand même comment on peut vous contacter, enfin, que peuvent faire les parents d'élèves là qui écoutent et qui...
Moi j'aurais envie de dire, oui. Alors nous on est là, on n'est pas... Oui. On est une possibilité. Nous notre envie c'est surtout de se dire effectivement il faut désobéir quelque part. À un moment il va falloir désobéir, en tout cas il faut dire non.
En nombre.
Mais le faire tout seul, voilà, faut être en nombre. Et voilà. Alors nous, on peut nous contacter. L'idée, nous, c'est pas effectivement. On a fait un appel, voilà, qu'on a publié, qui a été signé. C'est juste un acte de naissance. L'idée, c'est que maintenant, il y a des gens. Il faut faire des actions locales. C'est-à-dire que au collège où on met la tablette, là, où on impose ça, il faut que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls à dire. Mais moi, ça me va pas. Je veux pas ça. Il faut en parler autour de soi. Il faut essayer de contacter d'autres parents. Voilà, il faut essayer de faire groupe. Et notre collectif, donc nous, si on veut nous trouver, bon, on fait collectifcolline.fr. Voilà, Colline, C-O-L-I-N.
C-O-L-I-N-E.
Oui, C-O-L-I-N-E, comme le prénom.
Sans point.
Voilà, collectifcolline.fr. Il n'y a pas grand-chose encore sur notre site. Il y a un appel qu'on peut signer. Simplement, nous, ça nous permet d'avoir, en gros, une cartographie, j'ai envie de dire, de gens qui sont à certains endroits. Et l'idée, c'est de pouvoir ensuite mettre aussi ces gens en lien pour se dire, voilà, et ben là, je pars en Isère. T'es pas tout seul, mon gars. Vous êtes 50.
Oui, et enfin, vous commencez à... Enfin, qu'est-ce que ça a donné, le lancement de cet appel?
Alors, on a lancé l'appel le 8 décembre. On a autour de 1900 signatures, là. Une grosse, grosse partie, ce sont des enseignants, oui. Quand même. Ah, moi, quand je ne m'attendais pas. Toi, tu étais plus préparée à ça, Audrey, mais moi, ça a été une bonne surprise. Et les gens, souvent, quand ils signent, ils mettent un commentaire ou un témoignage. Et ça, c'est précieux aussi. Et beaucoup d'entre eux disent, bah, ah ouais, je suis pas tout seul à penser. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais pas adaptée. Donc, c'est ce qu'on a ressenti aussi. Hein. Enfin, moi, quand je lis ça, c'est précieux. Je me dis, mais ça fait sens, ça fait des liens, comme je disais tout à l'heure. Moi, ça me réconforte. Je me suis longtemps sentie seule. Je le suis plus du tout.
Et dans les associations de parents d'élèves, vous êtes en contact avec...
J'ai été sollicitée par la FCPE du collège de mon fils après leur avoir envoyé ce document, notre tribune. Et il se trouve que ce sont aussi des gens qui commencent à se questionner par rapport à ça.
Oui, parce qu'il n'y a pas... Ce qu'il faut dire aussi sur les associations de parents d'élèves, comme les syndicats enseignants, je veux dire les FCPE, PEP et UNAP, qui sont des fédérations nationales, personne ne se positionne sur cette question. Elle n'existe pas. On n'en parle pas. Donc, mais, effectivement, localement, tu dis la FCPE, parce qu'au niveau local, je veux dire, oui, là, il y a les gens qui se positionnent, là. Mais ils ne sont pas du tout... voilà. Donc, il faut aussi créer une pression d'en bas pour que ces... représentants, soient obligés de se positionner. Mais je crois que c'est surtout ça, c'est se dire, on n'est pas seul. Alors, on n'ose pas en parler parce qu'on a honte.
Pour des anti-numériques, le propos n'est pas là, quoi. Enfin, moi, je ne suis pas anti-numérique. Par contre, j'aimerais bien qu'il y ait toujours une solution papier au numérique. Ouais. Pour tout, hein. Changer sa carte grise,
oui, bien sûr,
pas, avoir un
impôts,
humain.
Je sais pas quoi, bien
moi,
sûr.
J'ai aussi beaucoup de personnes âgées dans mon métier qui sont perdues dans ce monde-là, quoi. Ils souhaitent pas, à 85 ans, s'équiper d'un ordinateur. Ça doit être respecté. C'est une question de droit humain.
Sans parler des millions de gens qui perdent leurs droits parce qu'ils ne peuvent pas faire les démarches numériques. Et il n'y a plus le choix.
Voilà. Et il faut toujours... C'est pas normal qu'on n'ait pas d'autres alternatives.
Et je crois que juste, vous dites qu'est-ce qu'on peut faire aussi au niveau local. Il y a des parents qui nous écoutent, il y a des enseignants, il y a des grands-parents, il y a toutes sortes de gens. Moi, ce que j'ai envie de dire, je suis représentante de parents d'élèves depuis 10 ans. Je veux dire, il y a un moment, il en faut un qui... Celui qui en a marre, il met les pieds dans le plat. Et il en parle. Et si vous parlez aux gens de votre malaise face à ça, vous allez vous rendre compte... Les profs, c'est pareil. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de gens qui sont dans le même malaise et à qui ça ne va pas. Et il y a un moment, je vais dire, en tout cas en tant que parents, les profs, c'est autre chose, ils sont dans l'institution, voilà, ils pensent qu'ils doivent fonctionner, c'est leur problème. Nous, en tant que parents, je veux dire, on a une liberté totale. L'institution, on ne lui doit rien, on n'est pas soumis à l'institution, on a le droit de dire merde si ça nous chante. Donc, mais on ne peut le faire que si on est nombreux. Parce que sinon, votre enfant va être stigmatisé, votre famille va être stigmatisée. À partir du moment où vous êtes juste peut-être 10 dans un établissement,
c'est déjà quelque chose.
Mais là, vous n'êtes plus seul. Et là, et en plus, j'ai envie de dire, peut-être que à 10, on peut avoir la force de sang parce qu'on a la détermination et la colère qui nous anime. Donc, et après, et vous allez vous rendre compte que finalement, vous allez en parler, les gens vont dire « Ah bah ouais, c'est vrai ». Vous voyez, et finalement, je crois qu'il faut casser un tabou, parce que vous vous rendez compte que c'est une omerta totale. Dans les établissements, nous on parle du 4.0, dans mon établissement, ça a changé tout. Il ne faut surtout pas en parler. Mais c'est de la censure, mais au sens réel du terme. Hein. Je veux dire, quand on porte une motion...
Qui dit qu'il ne faut pas en parler ?
Non, mais quand on porte une motion, par exemple, en conseil d'administration, je veux dire, elle n'est même pas... la dernière fois, les représentants des parents, des enseignants ont refusé de la voter. Elle n'a pas été portée au compte-rendu. Donc, c'est de l'obstruction. Voilà. Donc, il y a un moment... Il faut briser l'omerta, il faut en parler, il faut dire ça ne nous va pas. Et je pense que tout avance aussi sur la peur de ne pas être normal. On a été culpabilisés pendant 2 ans parce qu'on n'était pas assez ci, pas assez ça, on ne rentrait pas assez, on n'était pas assez responsable et tout ça. On a bien été conditionnés. Maintenant, il y a un moment, il faut dire, eh ben, ça ne nous va pas. Déjà le dire. Et puis, il y a d'autres gens qui vont dire que ça ne va pas. Et je crois que c'est vraiment oser en parler.
Oui.
Voilà.
On arrive au terme de l'émission, ça passe très très vite. Hein.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai que ça. Et puis c'est encore une fois, c'est. Enfin, moi, je vous écoute, je suis admirative devant le courage, enfin le fait que vous ayez eu le.
Je crois que pas. La colère, on a de la colère.
La colère, quoi. Voilà.
Il faut quand même du courage pour résister.
La colère.
Non, je crois qu'il faut rester debout. C'est un moment. Oui. Je veux dire, vous pouvez pas voir tout ça qui se passe.
Oui. Mais même. Oui. Voilà. Rester debout.
Rester debout.
Rester debout. Et merci à Thérèse et Frédéric.
Merci à vous.
À Julie et Audrey.
Merci de nous avoir donné merci la beaucoup. Parole. Merci pour nos auditeurs qui vont être certainement très très intéressés par ce sujet dont on parle très peu.
Et à dans un mois.
Oui. Merci Frédéric.